Et dans toute la presse chrétienne, cette semaine, Marie-Pierre, il est question d'une cathédrale et d'un architecte.
Et oui, Jonathan. Et la cathédrale, c'est la Sagrada Familia à Barcelone. Cathédrale dans laquelle, ce mercredi 10 juin, à l'occasion de son voyage de 6 jours en Espagne, le pape Léon XIV célébrera une messe. L'architecte? Antonio Gaudí, magnifique artiste espagnol dont on célèbre en cette année 2026 le centenaire de la mort. Un architecte qui voulait égaler les bâtisseurs de Saint-Pierre de Rome ou de Notre-Dame de Paris. Mais fervent catholique, il a veillé à ce que l'œuvre des hommes ne dépasse pas celle de Dieu. Ainsi, le clocher de la Sagrada Familia ne dépasse donc pas le sommet de la colline voisine de Montjuïc. 50 centimètres en moins. Un étonnant mélange d'ambition démesurée et d'humilité pour un homme élevé en avril 2025 au rang de vénérable par le pape François. C'est ce que vous lirez dans la Croix Hebdo.
La Croix Hebdo donc, mais aussi les magazines La Vie et Famille Chrétienne qui reviennent longuement sur cet admirable édifice enfin terminé.
Oui, pour La Vie, il s'agit donc d'une œuvre de foi en perpétuelle construction, donc pas tout à fait terminée, vous voyez, Jonathan. Et pour Famille Chrétienne, d'une catéchèse sculptée dans la pierre. Vous admirerez les splendides photos de nos confrères, notamment celle de l'impressionnante clé de voûte qui, à la croisée du transept, s'élève à plus de 60 mètres. Une cathédrale devenue le symbole de Barcelone et de la foi de son architecte. Prenez le temps ce week-end de lire l'histoire de la construction de cette cathédrale des pauvres dédiée à la Sainte Famille et de comprendre, comme je le lis dans les colonnes de La Vie, comment, pourquoi Gaudi a fait de la Sagrada Familia son refuge, ainsi que la concrétisation de sa vision d'une société meilleure. Dans les pages de Famille Chrétienne, vous découvrirez aussi comment sa foi est présente dans chaque élément, chaque recoin, comment chaque détail est conçu pour élever l'esprit humain et comment enfin la prière occupait une place centrale dans sa vie. Pour ma part, je retiendrai ce beau titre de la Croix Hebdo, Tutoyer le ciel avec Gaudi.
Dans la croix de ce mardi, nos confrères nous parlent quant à eux d'un homme qui faisait la manche sous le porche de la cathédrale de Bayeux.
Il s'appelait Lionel. C'était un gentil, un passionné d'équitation. Il avait travaillé comme palefrenier dans de nombreuses écuries. Le 9 septembre 2025, après 20 ans d'errance, Lionel est mort dans la rue. Il avait 58 ans. Lionel fait partie de ces 929 personnes sans domicile fixe décédées dans la rue en 2025 et auxquelles le collectif des morts de la rue rendait hommage ce 2 juin dernier. Comme chaque année, pour faire revivre leurs souvenirs et parce que chacun d'entre eux est unique aux yeux de Dieu, le journal La Croix grave leur nom sur les pages de son journal. Vous les retrouverez dans l'édition de ce mardi. Ils s'appelaient Sandrine, Philippe, Ludovic, Brigitte, des hommes et des femmes qu'aurait pu rencontrer Hélène, elle qui coiffe gratuitement les sans-abri. Dans un podcast de Famille Chrétienne, cette jeune femme raconte comment, alors qu'elle était au plus bas, malade d'un cancer, Jésus a fait irruption dans sa vie, elle qui n'était pas baptisée, et comment cette rencontre a radicalement changé sa vie. Aujourd'hui, Hélène, qui a créé l'association La Coiffure du Cœur, prend soin des gens de la rue.
Espérance toujours.
Oui, la première fois que je me suis retrouvée avec mon fils Zir dans un abri lors d'un bombardement, je me suis sentie coupable. Quelle vie lui ai-je offerte? S'interroge dans la croix de ce mardi Katerina Butchaska, une jeune artiste ukrainienne. Donner la vie en temps de guerre, un réflexe de survie? Pas toujours, mais dans un pays qui, depuis l'invasion russe, accuse un déclin démographique inédit, certaines femmes, comme Katerina, comme Daria, ont fait le choix conscient de la maternité. Pour autant, Daria confie avoir beaucoup hésité. Mais après 4 ans de guerre totale, elle et son mari ont compris qu'il ne fallait plus attendre une hypothétique fin à ce conflit. Mon horloge biologique tourne. Alors, pendant que Vladislas est sous les drapeaux, elle est partie sur le front démographique. Pour autant, l'angoisse de la guerre et de l'avenir n'est jamais très loin. Et puis, peut-être qu'un jour, son fils pourrait partir à la guerre lui aussi. Cela me réveille parfois la nuit. De toutes les manières, ce sera son choix le moment venu. Danilo va grandir ici en tant qu'Ukrainien en Ukraine. Nous n'avons qu'un seul pays, il faut le faire vivre, quoi qu'il en coûte.
Et enfin, pour terminer, on parle d'ange et d'ogre.
Oui, Jonathan, avec Olivier Weber. Il est correspondant de guerre, écrivain, voyageur, diplomate. Et dans les colonnes du Pèlerin, il dialogue cette semaine avec notre consoeur Muriel Fauria, et ce, au sujet de son dernier livre, « Des anges et des ogres ». Une galerie de personnages rencontrés au fil de ses expéditions et reportages en Chine, en Érythrée, au Yémen, en Afghanistan. Une invitation à écouter les palpitations du monde, écrit notre consoeur. On y rencontre notamment, mais il y en a bien d'autres, une femme fascinante surnommée Commandeur Latifa. Une infirmière devenue par la force des choses chirurgienne. Son nom, dans les années 80, résonnait dans le maquis afghan. C'est une femme formidable, rappelle Olivier Weber. Une parmi tous ces anges qu'on rencontre sur les terrains de conflit, au service des autres et de l'humanité. Tout comme le père de Beaurecueil, un dominicain, parlant l'arabe et le persan, et qui a créé un orphelinat à Kaboul. Mais sur les terrains de conflit, on croise aussi des tueurs sanguinaires. Les tigres tamouls, le président de l'Érythrée, ou les anciens Khmers rouges qui n'ont toujours pas été jugés. Mais qu'est-ce qui le porte donc, notre confrère? L'esprit d'aventure, la rencontre, la transmission? Oui, bien sûr, mais avant tout l'humain. C'est l'humain qui l'intéresse. Et si Olivier Weber dit ne pas avoir la foi, il reste dans l'espérance et dans une vision fraternelle du monde. D'ailleurs, c'est avec ces mots à lui, que je terminerai. Dieu, quel qu'il soit, a mis une étincelle en chacun de nous. À nous de la faire briller.